Nous allons maintenant enchaîner avec la deuxième intervention de Fanny sur la grande accélération et les énergies fossiles. Fanny Vérax, tu es là, tu nous entends?
Bonjour à
Ok.
tous.
Bonjour. Et du coup, je te pose une première question par rapport à la grande accélération et les énergies fossiles. De manière très factuelle, qu'est-ce qu'on entend par les énergies fossiles et qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Effectivement, Jeanne a très bien expliqué les différents enjeux de l'Anthropocène et ce qu'on va voir ensemble, c'est à quel point les énergies fossiles sont la pierre angulaire de l'Anthropocène, à tel point que les auteurs dont Jeanne a déjà parlé, Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, qui sont vraiment en France les références sur ce sujet, parlent à un moment de thermocène, c'est-à-dire l'Anthropocène vraiment comme une histoire aussi politique des énergies fossiles. Du coup, effectivement, on va commencer par un petit rappel sur ce que sont les énergies fossiles. Aujourd'hui, 85% du mix énergétique dans le monde est d'origine fossile. Ça veut dire que dans toutes les énergies qu'on consomme, il y en a 85% qui viennent du pétrole, du charbon et du gaz dit naturel. D'où viennent ces énergies fossiles? C'est vraiment un petit rappel très, très rapide. À l'origine, c'est l'accumulation et la dégradation, la décomposition de matières animales et végétales. Donc de matière organique sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions d'années. Le charbon, par exemple, a commencé à se former il y a plus de 350 millions d'années. Pourquoi est-ce que c'est important ce rappel? Eh bien parce que quand on entend que les énergies fossiles sont des énergies non renouvelables, en fait, ça ne veut pas dire que le processus de dégradation il s'est arrêté subitement. Ça veut juste dire que c'est non renouvelable à échelle humaine. Et oui, effectivement, dans 300 millions d'années, il y aura du nouveau charbon, du nouveau pétrole qui se sera formé. Ces énergies fossiles, si on les utilise autant, c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce qu'elles ont effectivement des super pouvoirs. Je vous en propose trois. Le premier, c'est le pouvoir calorifique extrêmement élevé. Le pouvoir calorifique, ça veut dire quoi? C'est l'énergie qui est dégagée sous forme de chaleur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez du pétrole dans un moteur, dans une voiture, ça va aller beaucoup plus vite que si vous mettez du bois découpé. Le deuxième super pouvoir, c'est le transport et le stockage qui sont faciles et qui sont sans perte. Là encore, je vais reprendre l'exemple d'une voiture. Si vous ne vous servez pas de votre voiture pendant un an et que vous laissez le réservoir plein, au bout d'un an, vous aurez la même quantité d'essence et vous pourrez faire exactement le même kilométrage. À l'inverse, si vous avez déjà essayé de laisser votre smartphone ou votre ordinateur pendant un an sans l'utiliser, vous avez probablement expérimenté ce formidable phénomène de la décharge. Vous ne l'avez pas utilisé et pourtant, il s'est déchargé. Donc, quand on transporte de l'électricité, quand on veut stocker de l'électricité, il y a toujours une perte, ce qui n'est pas le cas pour les énergies fossiles. Et puis, eh bien, le troisième super pouvoir des énergies fossiles, c'est une répartition assez équilibrée sur tout le globe. Aujourd'hui, les pays, les principaux producteurs sont l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Russie, Chine, Brésil, Moyen-Orient, bien sûr. Donc on voit qu'il y en a sur absolument tous les continents. Vous allez me demander alors, il est où le problème? On a trouvé des énergies qui sont formidables. Alors, il y a plusieurs types de problèmes. Il y a des enjeux sanitaires sur lesquels je ne reviendrai pas du tout, notamment en termes de pollution atmosphérique, maladies respiratoires, etc. Il y a bien entendu les émissions de gaz à effet de serre qui sont très, très directement liées à la combustion des énergies fossiles avec les dérèglements climatiques. Je pense que c'est des sujets que vous connaissez déjà bien. Alors, je voudrais surtout revenir sur cette question de l'épuisement des énergies fossiles. Ça fait 50 ans qu'on nous prédit un pic du pétrole. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment il y a bientôt plus du tout de pétrole et de charbon dans le sol? En fait, ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que on a besoin de plus en plus d'énergie pour aller chercher cette énergie. Pourquoi? Parce qu'on va la chercher de plus en plus loin, on va aller chercher dans des gisements qui sont de moins en moins accessibles. C'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, le TRE. En anglais, c'est ROI, Energy Return on Investment. C'est le ratio entre l'énergie utilisable et celle utilisée pour l'obtenir. Je vous propose de regarder le petit schéma qui est en bas, juste la couche du haut, un petit peu jaune d'œuf, là, vous voyez. Vous voyez que à partir des années 90, il y a une croissance exponentielle de cette couche jaune. Ça veut dire qu'on utilise de plus en plus d'énergie pour aller chercher de l'énergie. Concrètement, ça veut dire quoi? Sur les premiers champs pétrolifères en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, on était sur un NROI de 50 à 60, c'est-à-dire j'investis un baril de pétrole, j'en récupère 50 ou 60, c'est magique, on fait fortune. Aujourd'hui, j'investis un baril de pétrole sur certains gisements non conventionnels, je pense notamment au gaz de schiste, mais pas uniquement, j'en récupère parfois moins de 2. Allez, 3, un bon jour. Or, évidemment, vous comprenez bien que le jour où le NROI, le TRE devient inférieur à 1, c'est-à-dire j'investis un baril de pétrole, je récupère 0,9, ben en fait, je vais arrêter d'aller le chercher, cette énergie. Donc la question, ce n'est pas tellement est-ce qu'il y a un épuisement au sens de est-ce qu'on va aller choper la dernière goutte de pétrole, c'est simplement qu'on n'aura plus l'énergie nécessaire pour aller la récupérer et que ce sera beaucoup moins intéressant. Ce constat que je fais, ce n'est pas un constat militant, c'est un constat qui est fait par tous les observateurs scientifiques sur le sujet. Là, je vous ai mis une citation de l'Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers qui prévoit qu'en 2050, c'est environ la moitié de la production d'énergie qui sera engloutie dans sa propre production.
C'est effectivement énorme. Et du coup, on comprend bien hein, des super pouvoirs, mais aussi beaucoup de maléfismes. Mais avant tout, on est sur des principes physiques qui apparaissent avec l'utilisation de l'énergie. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces principes physiques qui apparaissent?
En gros, il y a deux notions vraiment à retenir. Le premier, c'est le phénomène de croissance exponentielle. Vous connaissez peut-être déjà la fameuse parabole du nénuphar, hein, on vous dit il y a un tout petit nénuphar dans un très grand étang et on vous dit ah mais au 100e jour il va couvrir toute la surface de l'étang et on a du mal à le croire, et ben oui effectivement et au 95e jour il couvrira peut-être que toujours 3% de la surface de l'étang, mais eh bien deux jours avant un quart, un jour avant la moitié et au 100e jour il couvrira bien toute la surface de l'étang. C'est exactement ça qui est en train de se produire avec la croissance exponentielle de la production et de la consommation d'énergie. Ça veut dire aussi que le moment où vraiment c'est visible, il est déjà trop tard. La deuxième notion, c'est la notion d'entropie. C'est une notion qui explique le désordre de la matière dans le temps, c'est-à-dire la matière qui était ordonnée, pour le dire de façon rapide, c'est-à-dire que quand on brûle, quand il y a une combustion d'énergie fossile, on ne pourra jamais revenir à l'état antérieur. C'est un phénomène de dissipation de l'énergie qui est irréversible. Une fois que vous avez brûlé l'essence dans votre voiture, il n'y a aucun mécanisme physique par lequel ça peut redevenir du pétrole. Ça, c'est juste, c'est pas possible. C'est un principe physique.
J'y vois très très clair et je ne verrai plus jamais les nénuphars de la même manière quand je les observerai dans nos natures. On voit bien les principes physiques qu'il y a, mais comment cela se caractérise concrètement? Parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais OK, il y a les renouvelables aussi qui sont présents comme énergie. Et donc, on pourrait se dire, mais il va y avoir des principes de substitution ou alors est-ce qu'on va être sur un ajout croissant d'énergie?
On aurait envie de croire que les renouvelables sont la solution, ou qu'en tout cas, ils suffisent à la solution. Malheureusement, nous sommes sur une augmentation exponentielle de notre consommation d'énergie. Et vraiment, la chose à retenir, c'est que les énergies s'additionnent et ne se substituent pas. Je vous propose de regarder le graphe à gauche. En fait, le graphe à gauche exprime la production d'énergie en chiffres absolus et le graphe à droite en chiffres relatifs. C'est souvent une confusion qui est entretenue par les médias avec une deuxième confusion entre le mix énergétique et le mix électrique. Si certains parmi vous ont suivi le débat présidentiel de 2007, c'est également une confusion qui a été faite par certains candidats. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous regardez en chiffres relatifs, donc à droite, effectivement, on peut dire « Ah, mais c'est formidable, la part des renouvelables augmente, c'est vrai, et la part du pétrole diminue, c'est vrai. » Il y a 25 ans, le pétrole représentait environ 40% de notre mix énergétique, aujourd'hui, il n'en représente plus que 34%. Oui, mais si on regarde à gauche en chiffres absolus, comme on continue à consommer de plus en plus d'énergie, la part absolue de production et de consommation de toutes les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz dit naturel, continue à augmenter. Comme le disent donc très bien Bonneuil et Fressoz, et vu qu'on n'arrête pas de leur faire de la pub, je vous montre quand même leur formidable ouvrage, l'événement Anthropocène, qui est vraiment une bible de l'Anthropocène et de tous ces sujets-là. Je vous précise que le PDF est gratuitement accessible en ligne. Je les cite donc, il n'y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L'histoire de l'énergie n'est pas celle de transition, mais celle d'addition successive de nouvelles sources d'énergie primaire.
Alors, tout cela s'additionne, mais n'y a-t-il pas des phénomènes qui se rajoutent, un effet rebond qui joue après sur les questions de la croissance et l'accélération de cette utilisation de l'énergie? Puisque si ça s'ajoute et ne se substitue pas, on peut penser qu'il y a une grande accélération qui opère.
Alors, effectivement, c'est un petit peu surprenant parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, nos technologies elles sont meilleures, elles sont de plus en plus éco-efficientes. Et c'est vrai, on isole de mieux en mieux nos bâtiments. Les voitures d'aujourd'hui consomment moins d'énergie aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ça, c'est vrai, on ne vous a pas menti. Alors, comment ça se fait qu'on consomme toujours de plus en plus d'énergie alors qu'on a des ingénieurs formidables? Et ben, en fait, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une raison, bien entendu, très importante, c'est l'augmentation du niveau de vie dans des parties du monde très peuplées. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? Alors, on va distinguer entre deux grands types d'effets rebonds. L'effet rebond direct, c'est quand l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse du prix d'une ressource en accroît la consommation. Concrètement, je vais reprendre l'exemple de la voiture, ce qui est vraiment ironique, parce que personnellement, je ne conduis pas, mais c'est juste un exemple, il paraît que ça parle à beaucoup de gens. L'effet rebond direct, c'est par exemple, effectivement, une voiture aujourd'hui consomme moins d'essence pour le même kilométrage qu'il y a 40 ans, et par ailleurs, c'est moins cher, hein. Donc, eh bien, les individus habitent de plus en plus loin, le périurbain s'étend et on parcourt de plus en plus de kilomètres puisque ça coûte moins cher. Ça, c'est l'effet rebond direct. L'effet rebond indirect, c'est que, eh bien, cette hausse du pouvoir d'achat peut être réinvestie dans d'autres biens ou services qui sont également énergivores. Je consomme, je fais la même distance en voiture, mais j'économise de l'argent puisque ma voiture consomme moins. Et donc, ah bah tiens, partons cet été aux Canaries puisque j'ai économisé de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond indirect. Quand cet effet rebond indirect explose tous les planchers, c'est-à-dire quand il dépasse les 100%, c'est-à-dire j'avais économisé 100%, enfin j'avais économisé une certaine quantité d'énergie ou une certaine quantité d'argent, et en fait le réinvestissement que je fais est tellement important qu'il dépasse l'économie primaire, on parle d'effet backfire, un effet retour de flamme. C'est typiquement le cas quand des économies d'énergie sur, par exemple, l'isolement, le chauffage, etc., vont derrière être réinvestis dans des voyages en avion, enfin notamment sur du tourisme.
Il y a finalement un peu une frénésie, c'est-à-dire que certes, je pourrais faire des économies, mais en fait, j'aime pas avoir des économies, donc je vais tout réinvestir, même quitte à en craquer un peu plus. Donc, on est vraiment sur de la courbe exponentielle sur l'utilisation des énergies. J'ai l'impression que cela se traduit un peu de manière assez systématique, ces courbes exponentielles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Toutes les courbes sont exponentielles. Et en fait, le principe de l'Anthropocène, c'est vraiment de mettre en lien, ici vous voyez à gauche les courbes de l'évolution du système Terre et à droite les courbes du développement socio-économique. La grande idée de l'Anthropocène, c'est de dire que ce n'est pas une coïncidence si ces courbes, elles montent toutes de façon exponentielle. Vous voyez sur la première ligne du haut à gauche l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, l'ozone stratosphérique, etc. Et à droite, vous voyez l'augmentation du PIB, de la population, de l'énergie, des engrais, de la consommation d'eau, etc., etc. Donc, les choses à retenir, la première, c'est que eh bien, ces deux choses sont bien liées. Il ne pourrait pas y avoir ce développement socio-économique-là sans l'augmentation exponentielle de l'énergie primaire, et c'est bien ça qui cause tous les autres indicateurs, l'augmentation de tous ces autres indicateurs. En économie, il y a eu un espoir pendant longtemps qui était celui du découplage. Je ne vais pas développer parce qu'on va en reparler dans les prochaines séances, mais le découplage en deux mots, c'était quoi? C'était cet espoir de la croissance verte et de dire on pourrait, ce serait vachement bien si on pouvait garder toutes nos courbes à droite qui montent, mais les courbes à gauche, elles resteraient stables. Oui, mais ça, en fait, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas possible, hein, voilà. Donc, si le découplage n'est pas possible, eh bien, ça veut dire qu'il faut absolument diminuer les courbes à droite, et c'est le lien notamment entre énergie et PIB dont Philippe va vous parler.
Merci Fanny pour ta présentation qui est très claire, très, très, très précise. Cette grande accélération avec ces courbes exponentielles renvoie à un article très, très récent qui est paru de Denise Meadows à l'occasion des 50 ans du Club de Rome. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, de revenir sur le rapport Meadows dans la prochaine séance, mais il expliquait qu'en fait, il ne fallait pas attendre d'être en haut d'une courbe pour pouvoir voir s'amorcer les effondrements. Les effondrements se préparent justement dans ces phases qui sont quasiment verticales des courbes exponentielles. C'est assez marquant et ça montre bien aussi l'état de fait dans lequel on est aujourd'hui par rapport à cette grande accélération.